France Musique. Les grands entretiens, Laurent Villarem.
Je m'appelle Marc-André Dalbavy, je suis compositeur et donc j'écris majoritairement pour les formations symphoniques, les formations de musique de chambre et des opéras actuellement.
Bonjour Marc-André Dalbavy.
Bonjour.
Alors j'ai une question. La veille, vous dirigiez votre opéra Le Soulier de Satin au Palais Garnier. Vous avez mis 5 ans à l'écrire, n'est-ce pas?
Oui.
Et la représentation dure 6 heures. Alors comment vous sentez-vous?
On va dire fatigué, mais une bonne fatigue. Une fatigue que l'on ressent lorsque on a passé un grand moment de musique avec les amis de l'opéra, avec les chanteurs. Oui. Donc, une fatigue positive.
Et durant ces 5 ans, vous avez disparu, vous êtes terré chez vous pour écrire cet opéra, Le Soulier de Satin?
Et oui, parce que, enfin, terré, non, effectivement, j'ai quand même d'autres activités. Donc, il m'est arrivé encore de voyager. Je suis aussi professeur au conservatoire, donc je m'occupe de mes élèves. Mais pendant 5 ans, effectivement, je n'ai fait aucune autre œuvre nouvelle. Et ça, c'est le problème des opéras, c'est-à-dire que on doit s'y consacrer à plein temps pendant une période assez longue. Donc ça met en suspens toutes les autres partitions qu'on a envie d'écrire.
C'est un projet un peu fou, c'est adapter la pièce de Claudel qui dure normalement 11 heures. Est-ce que vous avez douté? Est-ce que vous avez eu du plaisir? Ou parfois, est-ce que vous avez été découragé?
Non, j'ai jamais été découragé, mais c'est un projet absurde quelque part, hein. Fou et absurde, parce que ce qui est intéressant effectivement, c'est d'employer la longueur, et on sait que pour l'opéra, on a des restrictions qui sont beaucoup plus fortes que pour le théâtre. Il est très difficile de pouvoir dépasser 5-6 heures à l'opéra pour des raisons très simples, c'est que les musiciens ont besoin de se reposer. Vous pouvez pas demander à un trompettiste, à un tromboniste de souffler dans son instrument pendant 8 heures ou 10 heures. C'est absolument impossible. Alors effectivement, on pourrait aménager, on pourrait faire un opéra divisé en plusieurs sections, avec des sections où il n'y a pas de souffleur, où il n'y a que des instruments à cordes. On pourrait imaginer cela, mais à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre de la formation symphonique qui était quand même mon projet, c'est-à-dire de conserver, d'explorer, de réexplorer la dimension de l'opéra telle qu'on le connaît. C'est ça qui m'intéresse évidemment.
Alors je vais vous poser la question que je vous avais dit en antenne provocatrice. Est-ce qu'on aurait pu faire du Soulier de Satin un opéra qui dure 2 heures, qui soit époustouflant, centré sur Doña Prouez et Rodrigue?
Mais je dois dire que ça a été le premier projet de l'opéra qui a été proposé par le premier librettiste et le premier metteur en scène, projet que j'ai refusé, car effectivement ça transforme Le Soulier de Satin, qui est quand même une œuvre assez particulière, en une autre œuvre de Claudel qui est Le Partage du Midi. Et finalement c'est pas ça du tout qui m'intéressait, c'est-à-dire que on reprojetait l'œuvre dans une sorte de genre du 19e siècle, dans un Othello ou un opéra de ce type-là, et c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait dans Le Soulier de Satin, c'est la dimension temporelle, la dimension spatiale qui est explosée. Les 3 unités du théâtre classique français sont complètement explosées par Claudel.
Joie à toutes les âmes du monde.
j'ai même un petit effet spécial. Alors, il y a aussi le mot plaisir. Alors, hop, on va voir si c'est radiophonique. Alors, vous allez voir, elle est entamée. Alors, au centre de la table, on a placé une bouteille de vin. C'est vrai qu'on est le matin, c'est peut-être un petit peu difficile, hein, quoique. Donc vous êtes vigneron, et la bouteille s'appelle les Joiles. Je ne me trompe pas, je ne me suis pas trompé de bouteille, n'est-ce pas?
C'est ça, mais c'est mon épouse qui est...
Alors c'était ça que je voulais savoir, est-ce que c'est...
C'est mon épouse, moi j'aide beaucoup, effectivement, ça me fait beaucoup de bien de travailler l'agriculture. Certains font du jardinage, voilà. Mais oui, c'est mon épouse qui, effectivement, fait du vin.
Est-ce que par hasard, est-ce que vous pouvez, peut-être on peut déboucher la bouteille, juste le sentir?
Oui.
Peut-être à 10h du matin, on va voir.
À 10h du matin, alors mais comment... c'est le moment des dégustations.
Allez, c'est parti, ça va. Ben, je te laisse un objet transitionnel à côté. Hop.
D'accord.
Si jamais vous pouvez le sentir et me dire comment, j'espère qu'il n'est pas bouchonné.
Non, je ne pense pas, non. Ah oui, il y a ces délicats arômes de cerises confites, je reconnais bien le vin. Ça, c'est un vin naturel, c'est-à-dire c'est un vin qui n'a pas de soufre, donc qui n'a pas de produits chimiques, qui est totalement en agriculture biologique et naturelle. Et effectivement, je le reconnais bien.
Concrètement, vous avez quitté Paris il y a 15 ans à peu près ?
Non, j'ai quitté Paris en 1992 pour vivre à Berlin. Donc j'ai vécu 2 années à Berlin. Ensuite, je suis parti vivre à Nice une année, et ensuite, je suis parti en Italie, à Rome, où j'ai vécu là aussi 2 ans. Et par la suite, je ne suis pas revenu à Paris, je me suis installé dans la région de mes origines, en Dordogne, des origines de ma famille, pour rappeler un vers de Claudel. Et j'y suis installé depuis donc 1996 à peu près.
Et d'ailleurs, pourquoi vous n'aimez pas Paris ? Vous n'aimez plus Paris ?
Oui, non, je veux. Bon, j'aime Paris. Paris est une très belle ville, mais je n'aime pas y vivre. Et je pense aussi le fait que je sois compositeur fait que je peux vivre un peu partout. Et c'est vrai que j'ai choisi de m'installer dans un endroit où je pouvais vraiment me concentrer sur mon travail et ne pas avoir la vie trépidante autour de moi et tout le, comment dire, l'engagement social que cela entraîne, évidemment. En fait, je voulais plutôt m'installer dans la région Bourgogne. Bon, il y a des vins, hein. Et donc, j'étais plutôt dans la recherche d'un logement dans une région pas trop loin de Paris, avec un accès assez facile à la capitale. Et puis finalement, je suis revenu chez moi parce que, en fait, il y avait une maison qui m'attendait en Dordogne, qui était seule et qui était en cours de délabrement. Et donc, j'ai repris cette maison. Que j'ai retapé, on va dire, pour pouvoir m'installer là. Donc c'est plus une opportunité que le fait de revenir à ses racines.
Néanmoins, votre domaine s'appelle le domaine de la voie blanche, ça veut dire, d'Albavie, ça veut dire ça en occitan, je me trompe ?
Oui, absolument, oui. C'est le domaine, ça veut dire ça en occitan, Alba et Via, hein, qui est de l'ancien latin.
Et il y a aussi un de vos vins qui s'appelle d'une source oubliée. Vous avez une œuvre qui s'appelle la source d'un regard. C'est quoi cette idée de source ? Est-ce que... Vous avez l'impression de revenir à vos sources ?
Alors en fait, non, c'est que dans cette vigne-là, il y a une source. Il y a une source qui coule. Et donc, tous les vins qui sont produits là rappellent la présence de l'eau, de cette eau. Et c'est pour ça que tous leurs noms tournent autour de la source. Que ce soit la source elle-même, la source oubliée, la source blanche aussi, parce qu'il y a du vin blanc. Et la présence de l'eau est très importante.
Marc-André Dalbavy, on va essayer de revenir aux sources de votre musique. D'ailleurs, vous n'êtes pas très à l'aise pour parler de vous-même. Vous préférez, est-ce qu'un compositeur peut-il parler de sa vie ou seule la musique compte pour vous?
Oui, disons que ma vie est plutôt un secteur un peu privé que je garde. Je préfère parler de ma musique que de moi-même. Peut-être qu'à travers elle, on peut y atteindre, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment exposé ma biographie. Ma biographie est généralement assez succincte.
Mais peut-être cette semaine, un petit peu.
Peut-être cette semaine.
Alors j'ai regardé, c'est vrai que vous avez très peu parlé de votre enfance. Vous êtes né en 1961 à Neuilly-sur-Seine. Vous avez grandi à Neuilly, à Paris.
J'ai grandi à Paris. Je suis né à Neuilly parce qu'en fait, j'ai une mère américaine et qu'à Neuilly, il y a un hôpital américain. Mmh. C'est la raison pour laquelle je suis né là. Mais il n'y a pas de... Je n'habitais pas à Neuilly. Mes parents habitaient Paris à l'époque.
Derrière, dans le soulier de satin, il y a une phrase de Claudel qui dit « Il y a cette Amérique en vous ». C'est vous-même, vous avez cette Amérique en vous.
Oui, je dois dire que j'ai cette Amérique en moi, absolument. Ma mère est née en Californie, mais sa famille vient de Utah, qui est un état très particulier aux États-Unis, puisque c'est un état majoritairement mormon, qui a été créé par les mormons.
Elle-même était mormone ?
Et elle-même était mormone.
Ça signifie quoi, être mormon ?
C'est une religion chrétienne telle que l'Amérique s'est en inventée, c'est-à-dire une religion assez nouvelle, qui est née au XIXe siècle et qui a amené des gens à s'installer dans plusieurs États des États-Unis, mais ils ont été assez persécutés, souvent par les autres religions présentes, comme les Quakers, les évangélistes et tout ça, et ils se sont regroupés dans un état assez difficilement qu'ils ont créé, d'une certaine manière, qui est l'état de Utah et dans une ville qui est Salt Lake City.
Elle vous a transmis cet héritage mormon ou pas du tout?
Non, elle était attachée aux mormons, mais elle s'en est éloignée. Quand elle est devenue adolescente ou jeune femme, elle a, on peut dire, quitté le mormonisme. Non, c'est une religion à laquelle elle tenait pas tellement. Donc elle n'a rien transmis de cette religion, ni à moi, ni à mes frères.
Qu'est-ce que faisaient comme métier vos parents?
Alors, ma mère a été, quand elle était jeune, était actrice de cinéma à Hollywood. Donc,
c'est vrai?
Wow. Bien sûr, oui. Elle a fait quelques films dans des rôles secondaires, elle n'a pas poursuivi. Des films dont certains sont encore que l'on peut voir, comme un film comme Jet Pilot, par exemple.
C'est incroyable, excusez-moi, Marc-André. Oui. Et c'était sous quel nom?
Perdita Chandler. Donc, effectivement, elle a commencé par être actrice, alors qu'au départ, elle voulait être chanteuse. Et finalement, elle est revenue au chant après ce passage à Los Angeles. Elle a déménagé à New York et là, elle a plutôt été dans le chant. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon père, d'ailleurs, parce qu'elle a fait une tournée en France, en Europe, d'ailleurs. Et c'est à l'issue de cette tournée qu'ils se sont rencontrés. Finalement, elle est restée en France.
Est-ce qu'elle a eu un regret de sa carrière d'actrice? Est-ce qu'il y a...
Non, non, mais elle a gardé toujours beaucoup de liens et dans ma jeunesse... J'ai passé beaucoup de temps avec des gens du monde du cinéma américain, des gens comme Zanuck.
Et c'était un nabab avec un gros cigare?
Oui, 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 tout à fait. C'était un nabab avec un gros cigare. Son fils a fait Les Dents de la Mer. Et lui a fait beaucoup, beaucoup de films, effectivement. C'était un très gros producteur. Et aussi, nous étions... on était très souvent avec des gens de ce monde-là quand j'étais enfant.
Ça vous fascinait?
Non, parce que je ne savais pas du tout. J'ai découvert qui ils étaient bien plus tard. Mais disons que ça faisait partie des amis de la famille.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Marc-André Dalbavy.
Le fait que votre mère soit américaine, ça se traduisait comment? Vous parliez anglais à la maison ou pas du tout?
Ma mère parlait, oui, elle parlait anglais la plupart du temps. Quelquefois, elle parlait en français et au fur et à mesure, elle a commencé à parler dans un double langage.
Ah, comme un double jeu?
Un double jeu, voilà, qui fait beaucoup penser au langage actuel du français. C'est-à-dire en mélangeant beaucoup de mots anglais avec des expressions françaises. Mais elle parlait beaucoup anglais. C'est le cas aussi de mon père qui était par contre lui très français, mais il aimait parler anglais. Donc effectivement, on parlait pas mal anglais dans la famille.
Mais il y avait un choc des cultures dans la famille Dalbavy. C'était
Non, ça se faisait en très belle harmonie, donc il n'y avait pas du tout de choc des cultures, même si c'est vrai que le monde anglo-saxon et le monde francophone sont des mondes avec des pensées, une culture très différente.
Et vous étiez fier d'être franco-américain?
Parce que... Non, parce que c'est arrivé en dépit de ma volonté. Donc je n'avais aucune fierté à être soit français, soit américain. On peut dire que malgré ça, j'ai quand même été élevé à 90% dans une culture française.
Et pourtant, dans les années 90, vous avez été très vite repéré par les orchestres américains. USA Today, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous avez désigné en 1998 comme le jeune compositeur de l'année. C'était une reconnaissance incroyable.
Oui, mais je pense qu'ils ne savaient pas que j'étais américain. Parce que je suis resté toujours discret sur cette partie de ma vie, comme sur la plupart d'ailleurs. Évidemment, certains orchestres, ceux qui m'engageaient, le savaient parce que je rentrais aux États-Unis avec un passeport américain, ce qui me permettait d'avoir des facilités pour travailler. Parce que, comme vous savez, aux États-Unis, il est assez difficile de travailler si on n'a pas soit la nationalité américaine, soit une carte verte. Qui est une carte qui demande une bureaucratie assez importante. Vous ne pouvez pas travailler, par exemple, aux États-Unis si vous prenez le travail d'un Américain. Donc, il faut que toute entreprise qui vous engage doit prouver qu'elle a besoin de vous. Vous voyez, enfin, c'est assez compliqué. Donc, le fait d'avoir un passeport américain m'a permis ces facilités pour travailler avec ces orchestres. Mais je ne suis pas connu comme un compositeur américain. Les orchestres eux-mêmes ne sont pas tellement intéressés à cette facette de moi. Ils étaient étonnés que je parle l'anglais, sans doute.
Vous le parlez très bien?
Non, je le parle, disons, normalement, là, en langage courant. Il n'y a pas de problème, je peux faire des conférences en anglais ou des choses
comme ça. Vous avez un accent français?
J'ai un accent français, oui. J'ai un accent français.
Jamais voulu vivre aux États-Unis? Il y a des choses qui vous plaisent moins, ou alors c'était vous vouliez rester européen?
Oui, je me sens européen, effectivement. J'aurais pu vivre aux États-Unis. J'avais plusieurs fois des invitations et des possibilités de m'installer là-bas. Non, j'ai toujours refusé de m'installer aux États-Unis. J'ai toujours voulu y travailler, évidemment, le grand plaisir d'y travailler. Le rythme de vie, la façon de vivre est assez loin de ce que j'aime. Donc je préfère vivre en Europe, en Italie évidemment, ou en France.
Vous disiez que votre père est très français, qu'est-ce que ça veut dire pour être selon vous?
Très français par rapport à ma mère, évidemment le contraste était évident. Mon père est né comme beaucoup d'hommes de sa génération, il était né en 1911, donc au début du XXe siècle, et il était né dans une région, une campagne française, qui est la Dordogne. Et il est monté à Paris, comme beaucoup de ses amis faisant des études, pour pouvoir y faire carrière après la guerre, parce qu'il a fait la guerre. Donc voilà, il était complètement. Puis à l'époque, les jeunes voyageaient beaucoup moins que maintenant. Donc voilà, c'était un homme vraiment de la culture française telle qu'on peut l'imaginer au sortir de la Deuxième Guerre mondiale.
Que faisait-il ?
Mon père, lui, dirigeait une entreprise en France qui s'appelle la NCR, qui est une entreprise qui a fait de la recherche sur en électronique, en machine informatique, déjà à l'époque. C'est une entreprise qui existe toujours, d'ailleurs, qui est d'origine américaine. On voit quelques distributeurs de billets de banque dans les banques sont faites par cette entreprise. Donc c'était une grosse entreprise électronique. Elle était à l'époque, dans les années 60, la deuxième après IBM. Donc c'était une entreprise assez importante, mais très loin de l'univers de ma mère, évidemment.
Et qu'est-ce que vous tenez de lui ? Un côté bon ?
L'amour de la musique. C'était un passionné de musique, de littérature, aussi de peinture. Il m'emmenait beaucoup dans les musées, mais la musique était sacrée pour lui. Je me souviens, quand on était jeunes, avec mes frères, il nous invitait dans son bureau où il y avait son pick-up, et on écoutait religieusement soit du Beethoven, soit du Mozart, et il avait même, j'ai remarqué plus tard, il avait même le marteau 100 mètres de Boulez dans sa collection en disque vinyle, donc les vieux disques d'autrefois. Non, c'était un passionné de musique, ça il me l'a transmis.
Et c'est lui qui vous a mis au piano, tout jeune ? Comment ça s'est passé ce...
Le piano, oui, c'est lui et ma mère, parce que ma mère a été musicienne, elle a chanté. Donc tous les deux ont mis tous leurs enfants au piano, enfin on faisait de la musique. C'est ma grand-mère qui a mis pour la première fois mes mains sur son piano. Donc j'avais 4-5 ans et j'ai commencé les cours vers 6 ans avec une professeure. Donc effectivement, dans la famille, on faisait de la musique jeune, oui.
Dans l'eau de Debussy, joué par Walter Gieseking, pour refermer le premier épisode de ses grands entretiens avec Marc-André Dalbavy. Prise de son Pierre Henry, mixage Valérie Lavalard, attaché de production Flora Sternadel, une émission réalisée par Lionel Quentin. À la même heure, demain, deuxième épisode de ce portrait. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.